Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de 7h avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des droits de douane à 200% sur les vins et champagne français. Menace de Donald Trump ce matin en réponse à Emmanuel Macron qui refuse de rejoindre pour l'heure le conseil de la paix de Donald Trump. Le 49-3 comme dénouement à la crise du budget, regret et amertume pour Sébastien Lecornu, contraint de devoir revenir sur sa parole. Et vous entendrez le désarroi de parents après le rappel de Les Infantiles du groupe Nestlé.
Une colère ce matin, celle de Donald Trump.
Très remonté contre Emmanuel Macron, le président américain qui invite son homologue russe Vladimir Poutine à rejoindre le Conseil de la paix, s'est exprimé après le refus de la France de participer à cette initiative visant à résoudre les conflits internationaux. Et cela ne lui plaît pas du tout. Donald Trump le fait savoir à sa manière.
Ah oui, il a dit ça ? Vous savez, personne ne l'écoute, il ne sera plus en poste d'ici peu. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200% de taxes sur leur vin et leur champagne, et vous verrez qu'il viendra.
Les mots donc de Donald Trump avant de s'envoler pour le forum économique de Davos en Suisse. Emmanuel Macron, il sera cet après-midi avec un discours d'autant plus attendu sur fond de tension, avec en toile de fond le Groenland que le président américain souhaite acquérir. Les menaces de rétorsion européenne ne lui font pas peur. Ils ne vont pas résister bien longtemps, ajoute Donald Trump ce matin, alors que des avions d'une force militaire américano-canadienne sont en route pour le Groenland, exercice prévu de longue date coordonné avec le Danemark.
Il est 7h01 sur RMC. Sébastien Lecornu a donc fini par trancher.
Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement.
Et le budget passera donc par le 49-3, vous l'avez compris. Face à l'impasse, le Premier ministre a décidé de rétro-pédaler, renoncer à son engagement. Il engagera la responsabilité de son gouvernement dès aujourd'hui. Un premier 49-3 sur la partie recette du budget. Deux autres suivront afin de promulguer le texte avant mi-février. Et à chaque fois, il sera soumis aux motions de censure des Insoumis et du RN, avec l'espoir de survivre grâce au soutien Romain Cluzel des socialistes.
Et le patron des députés socialistes, Boris Vallaud, ne laisse aucune place au doute. En l'état, son groupe ne va pas voter la censure contre Sébastien Lecornu, même s'il n'est pas vraiment satisfait de ce budget.
Ah non, j'en suis pas fier, c'est pas le nôtre. Mais je crois que nous avons fait œuvre utile en ne perdant jamais de vue les hommes et les femmes pour lesquels on se bat.
Boris Vallaud cite notamment les dernières concessions de Sébastien Lecornu, comme la hausse de la prime d'activité ou le repas à 1 euro pour les étudiants. Mais tout cela ne convainc pas le député RN Laurent Jacobelli.
Au final, on a un très mauvais budget présenté par un Premier ministre qui finalement sauve son poste, joue la durée, mais n'apporte aucune réponse aux problèmes des Français.
Son groupe va déposer une motion de censure, tout comme les Insoumis, pour répondre au 49-3 utilisé par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre dit activer cet outil avec regret, ce qui fait bondir la députée LFI Danielle Obono.
C'est du mauvais théâtre. Il se pose presque en victime du coup de force antidémocratique. Il piétine l'Assemblée nationale. Et en vérité, c'est les Français et les Françaises qui l'insultent.
Mais ces deux motions de censure n'ont aucune chance d'aboutir sans les voix ni des socialistes ni des LR.
Il ne manquait pas ce matin à 7h40 les explications du politologue Benjamin Morel, et notamment sur ce calendrier du 49-3 à rebondissement dans les semaines qui viennent. Et puis à 8h30, ce sera la réaction politique. Mon invité, ce sera le député RN Jean-Philippe Tanguy.
Le retour du débat sur la fin de vie, 8 mois après son adoption par l'Assemblée nationale. Les sénateurs vont se pencher sur les deux textes de cette réforme promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le premier au sujet des soins palliatifs, le second sur l'aide à mourir. Le vote est prévu à la fin du mois sans garantie de succès.
Début ce jour de 3 jours de deuil national en Espagne au surlendemain de la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 40 passagers.
Et le bilan est toujours provisoire. Il pourrait s'alourdir au-delà des blessés hospitalisés, une quarantaine. Les secours s'activent dans les carcasses des deux trains à la recherche de survivants. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Et pour leurs familles, l'attente est interminable. Rachel Sadodine, envoyée spéciale RMC, s'est rendue à Cordoue devant l'un des centres d'accueil pour les familles de victimes.
Les yeux rivés au sol, la mine grave des familles escortées par la protection civile entrent une à une dans ce grand bâtiment entouré de cordons de police sans s'arrêter devant les caméras de journalistes tenus à distance. Tous ici sont à la recherche d'un proche toujours porté disparu. Lourdes Escobar, psychologue à la Croix-Rouge.
Nous sommes là pour leur apporter un soutien face à leurs besoins émotionnels d'expression et de réconfort. Ils arrivent avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse, et au fil des les heures, même si nous essayons d'être là pour eux, cela devient de plus en plus pénible.
Certaines familles ont passé la nuit ici, scrutant leur téléphone dans l'attente d'une bonne nouvelle. Les avis de recherche se multiplient sur les réseaux sociaux, des photos d'un père, d'une fille, d'une amie, pour tenter d'accélérer l'identification des victimes. La garde civile a ouvert plusieurs bureaux de prélèvement ADN, dont un ici à Cordoue.
Rachel Sadodine, envoyée spéciale RMC en Espagne. Le Premier ministre espagnol a lui promis une transparence absolue sur les circonstances de l'accident, alors que les enquêteurs cherchent à comprendre les causes du déraillement du premier train venu s'encastrer dans le second. Les excuses du patron de Nestlé au cœur de la tempête après le rappel de les infantiles Gigos et Nidal, des mots qui n'ont pas calmé la colère de parents de jeunes nourrissons. Ils ne comprennent pas comment une substance d'origine bactérienne a pu atterrir dans ces produits pour bébés. C'est le cas de ses parents, rencontrés par notre correspondant à Lyon, Vincent Chevalier.
Quelques jours après sa naissance, la fille de Kimberley et Mathieu présente des symptômes inquiétants.
Elle régurgitait beaucoup, elle avait des spasmes, elle se tordait dans tous les sens.
Après plusieurs visites chez le médecin, le couple le découvre. Plusieurs références du lait qu'ils donnent à leur fille font l'objet d'un rappel.
C'était très compliqué, on s'est dit, on a empoisonner notre enfant. On lui a fait vivre ça alors qu'il vient juste de naître.
Des parents aujourd'hui en colère, comme Grégoire. Ce jeune papa envisage même la création d'un collectif, voire d'un recours en justice.
J'attendais justement de voir un peu où ça allait, jusqu'où ça allait aller. Si je vois qu'il y a vraiment d'autres parents bien remontés, ouais, ça laisse penser que je vais me lancer dedans. Ouais.
Selon Nathalie Goutalan, avocate spécialisée en droit de la sécurité alimentaire, mieux vaut garder les produits suspects pour les faire analyser. Et si les symptômes persistent chez l'enfant,
demander au médecin qu'il constate, mais aussi qu'il fasse une démarche administrative, une déclaration obligatoire de toxi-infection alimentaire collective, puisque là, on se retrouve effectivement dans ce cadre-là maintenant.
De son côté, Nestlé s'excuse, mais le groupe ajoute n'avoir aucun cas de maladie en lien direct avec les produits concernés à ce stade.
Les établissements scolaires resteront fermés ce matin dans 109 communes de l'Aude. Au lendemain de fortes précipitations, il est tombé jusqu'à 4 mois de pluie en 2 jours. La décrue amorcée de certains cours d'eau dans le département s'annonce particulièrement lente. Le retour de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG se déplace à Lisbonne face au Sporting avec l'objectif pour les Parisiens. Troisième ce matin au classement de valider leur billet pour les huitièmes de finale. La mission sera plus compliquée pour Monaco, attendu sur la pelouse du Real Madrid. Rendez-vous sur RMC ce soir pour cette 7e journée de Ligue des Champions à 21h. Et puis un événement dans le monde du basket, la première titularisation de Victor Wembanyama pour le All-Star Game de la NBA mi-février. Giancarlotti, c'est inédit pour un Français dans ce match de gala entre les meilleurs joueurs du championnat américain.
Et oui, même la légende Tony Parker n'a jamais été titulaire en 6 participations au All-Star Game. Alors à tout juste 22 ans, Victor Wembanyama entre un peu plus dans l'histoire du basket français. L'an dernier, il était remplaçant, cette année pour sa 3e saison NBA seulement. Wemby intègre la liste des 10 joueurs titulaires pour l'édition 2026 de ce match de gala. Auteur d'un excellent début de saison avec la franchise des Spurs, le natif des Yvelines a séduit les fans, les joueurs et les journalistes chargés de voter pour former les équipes. Le 15 février à Los Angeles, le géant de 2m24 foulera le parquet aux côtés de grands noms du basket mondial, notamment le Slovène Luka Doncic, le Serbe Nikola Jokic et la légende des Golden State Warriors, l'Américain Stephen Curry.
Et le parcours sans faute des handballeurs français, 3e succès de rang hier soir à l'Euro face à la Norvège, 38-34, place désormais au tour principal. Ça débute jeudi avec une rencontre face au Danemark.
C'était le journal de Thibaut Texer.